France Culture.
Les nuits de France Culture.
Pour celles et ceux qui avaient la force de résister, il y avait dès le début, chez les déportés des camps de concentration, la volonté de ne pas accepter la défaite comme définitive, de tout faire de l'intérieur pour saboter l'effort de guerre nazi et préparer une éventuelle libération. À l'échelle individuelle, c'est les petites actions quotidiennes qui actualisent cet esprit de révolte. Travail au ralenti, vol de pièces détachées, dissimulation de déportés trop malades pour travailler, tous ces gestes qui paraissent minuscules s'accumulent pour former un tout et marquer dans les différents camps l'organisation d'une vraie résistance. Résister, c'est aussi refuser la bestialisation imposée par les SS et se donner un objectif pour lequel il valait la peine de survivre. Le Comité international de Buchenwald est l'un des exemples de cette volonté. Les résistants de toutes les nationalités présentes sur le camp se réunissent dans une organisation clandestine qui remplit de nombreuses missions. Constitution de stocks de vêtements, de nourriture, d'armes, mise en place de techniques d'entraide permettant de sauver des milliers de prisonniers, c'est une organisation complète et complexe qui libère le camp le 11 avril 1945. C'est ce que raconte ce 15e de 27 épisodes de la série « Le monde concentrationnaire » de Francis Crémieux, avec le général Aéré et Roger Arnoux, diffusé pour la première fois le 13 mai 1965 sur France Culture.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux.
Aujourd'hui, l'heure de la libération, entretien avec le général d'armée Aéré et Roger Arnoux.
Le général d'armée Aéré, chef d'état-major des armées, a été arrêté le 14 juin 1944 et déporté le 15 août 1944. Entre-temps, il a passé 2 mois au secret à Fresnes. Le général Aéré était à l'époque chef d'escadron et responsable de l'organisation clandestine de résistance de l'armée, l'ORA, pour la zone nord. C'était une très bonne prise pour les Allemands. Mon général, je voudrais vous demander de faire comme un cours d'école de guerre devant de jeunes Français et de nous dire comment vous avez retrouvé en août 1944 la résistance à Buchenwald.
Nous avons repris contact avec la résistance d'une manière extrêmement simple, étant donné qu'il y avait déjà dans le camp de Buchenwald un nombre considérable de résistants appartenant aux différents mouvements, et par conséquent, nous nous sommes retrouvés, si on peut dire, en pays de connaissance.
Donc vous retrouvez le contact avec Laura?
Oui.
Mais Laura, ce n'était qu'une des couleurs du spectre. Il y avait les autres mouvements.
Si vous voulez bien comprendre la résistance dans les camps de concentration, il faut d'abord comprendre la résistance en général. La résistance en général, ça consistait essentiellement dans la volonté de ne pas accepter comme définitive la défaite initiale que nous avions subie en 1940 et qui avait été entérinée par le gouvernement Pétain. Ça consistait avant tout à ne pas accepter le dogme de la victoire allemande et par suite à refuser de suivre la loi du vainqueur. Donc, nous étions amenés à tous les actes qui pouvaient contribuer à la défaite de Hitler, qui étaient le renseignement, le sabotage de l'effort de guerre au profit des Allemands, la démoralisation, chaque fois qu'on le pouvait, des troupes allemandes, et aussi les actions directes sur les Allemands, et en particulier sur leurs services et leurs transports. Mais ces actions étaient la manifestation, surtout, de ce phénomène fondamental de la résistance, et elle consistait surtout dans la volonté de ne pas céder et dans la volonté de ne pas admettre la victoire de l'Allemagne. Et c'est pourquoi, une fois dans les prisons ou dans les camps, si on avait beaucoup moins de moyens de nuire à l'Allemagne, et il en restait encore, parce que dans un camp comme Buchenwald, par exemple, il y avait tout de même un moyen, sinon de saboter complètement les fabrications que faisaient les Allemands dans les usines où travaillaient les gens de Buchenwald, il y avait quand même de grandes possibilités de réduire considérablement l'efficacité de ces machines de production, et même souvent, il y avait une sorte de sabotage qui ne venait pas de gros sabotages individuels, mais l'addition d'une quantité de tout petits sabotages qui finalement avaient la même conséquence que des sabotages importants. Le fait même de la résistance dans les camps, c'était cette volonté de ne pas céder devant l'abrutissement, la dépersonnalisation, la bestialisation que les Allemands voulaient faire des gens, et continuer à avoir la volonté de victoire et la foi dans la victoire.
Est-ce que c'est le moment de me parler déjà de cette union internationale nécessaire pour organiser la lutte, ou bien préférez-vous que nous parlions d'abord de l'organisation française ?
Cette intégration de la résistance française dans la résistance internationale s'est faite facilement. Je ne dis pas qu'elle n'a pas éprouvé de très grandes difficultés à cause, bien entendu, de la clandestinité très difficile qu'il fallait assurer à ces opérations. Mais enfin, ça m'a paru se faire relativement facilement.
Ce qui frappe dans le témoignage du général Ayret, c'est l'insistance qu'il met. Ah, c'est moins bon, ça.
Une chose frappe, c'est le retour
du monde. 1-0. Le général d'armée Ayret, chef d'état-major des armées, a été arrêté le 14 juin 1944 et déporté le 15 août 1944. Entre-temps, il avait passé 2 mois au secret à Fresnes. Le général Ayret était à l'époque chef d'escadron. Il était responsable de l'organisation de résistance de l'armée, ORA, pour la zone nord. C'était donc une très bonne prise pour les Allemands, et s'il avait pu tenir encore quelques jours à Fresnes, on peut imaginer qu'il aurait participé au combat libérateur de Paris. Mon général, je voudrais vous demander de faire comme un cours d'école de guerre à de jeunes Français qui ignorent la résistance métropolitaine et la résistance dans les camps de concentration. Et je voudrais que vous me disiez comment vous avez repris contact avec la résistance en arrivant à Buchenwald. Ce qui frappe dans le témoignage, dans le petit cours de... Ce qui frappe dans l'exposé et le témoignage du général Ayret, c'est le mot « facilement ». C'est un fait. L'organisation militaire clandestine des résistants français était déjà très structurée en août 1944, lorsque le général Ayret est arrivé à Buchenwald. Et je voudrais redemander à Roger Arnoux, qui fut l'un des responsables militaires du camp et qui déjà est venu à plusieurs reprises à ce micro, de nous dire comment s'organisaient les choses, non pas tant sur le plan des réserves d'armes et des exercices de mobilisation, mais par exemple aussi sur le plan de l'intendance. Vous aviez une intendance.
Nous avions aussi un service d'intendance qui avait à sa tête un homme du comité des intérêts français qui était Maurice Jadefaux.
Oui, mais vous ne deviez pas avoir beaucoup de réserves.
Bien, si, ma foi. On avait toutes sortes de réserves, y compris dans l'habillement, dans les chaussures, parce qu'on pouvait penser qu'une des solutions serait qu'on soit obligé de prendre le maquis pendant quelques jours, peut-être une semaine, 2 semaines, vers la fin des opérations. On avait même pensé regrouper jusqu'aux prisonniers de guerre des stalags des environs.
Dans cette organisation militaire, quel était exactement votre rôle ?
Mon rôle s'est modifié au cours des mois. Au début, mon rôle a été avec des camarades comme Karl Madiot, qui est notaire à Saint-Brieuc, comme Henri Gilbert, comme Lucien Chaplin, de préparer les groupes de choc de la brigade, c'est-à-dire les groupes pour les opérations de commando. Par la suite, je suis devenu un des commandants adjoints d'un des bataillons, qui était le bataillon Saint-Just.
Vous étiez adjoint de qui ?
J'étais avec Louis Vautier, l'adjoint du commandant Artus, qui est maintenant général de gendarmerie.
Vous apportiez dans l'amalgame la tradition franc-tireur et vous aviez comme chef un militaire qui lui apportait la tradition école de guerre, disons.
C'est ça, absolument. Alors, l'état-major était un comité international du camp qui avait en main les problèmes militaires avec les plans défensifs, offensifs, prévus selon les circonstances. Il était composé de représentants de chaque nationalité.
Pouvez-vous énumérer les différentes grandes possibilités que vous envisagiez, soit offensives, soit défensives?
Il y avait le meilleur cas et le pire des cas. Et considérant que c'est le pire des cas qui avait tout de même retenu le plus d'attention, je commencerai par celui-là. Au départ, des bruits et puis des informations de plus en plus précises amenaient à penser que les Hitlériens, les nazis, détruiraient le camp, ne laisseraient rien, par pierre sur pierre, c'est-à-dire qu'on amenait à l'extermination totale. Par conséquent, le but, dans le cas le pire, c'était d'essayer d'empêcher l'extermination. Dans le cas le meilleur, c'était celui où, profitant des difficultés qui se créeraient dans l'appareil nazi, nous pourrions le plus tôt possible, libérer le camp ou nous enfuir du camp avec les formations, prendre le maquis. Et c'est celle-là que nous nous étions beaucoup attachés, les Français, et même les Soviétiques, et les Espagnols, les Yougoslaves.
Mais en jonction avec l'avance des armées américaines.
Nous espérions faire ça le plus tôt possible. Nous aurions souhaité que l'action armée ait lieu, non pas le 11 avril, mais beaucoup plus tôt.
Qu'est-ce que ça cache? Alors, au fond, vous me dites que vous étiez plus offensif, peut-être, que vos amis allemands.
Oui. Nous voyons que l'extermination du camp, en somme, était commencée depuis le 5 avril. Les nazis avaient parfaitement compris qu'avec 60, 70 000 ou même 90 000 êtres humains dans le camp, procéder à une extermination comme ça, en quelques heures, c'est une chose considérable. Alors, ils avaient entrepris de procéder, en somme, par étapes. C'est pourquoi ils avaient fait les évacuations sur les routes, en amenant dans toutes les directions des gens destinés à être exterminés un peu partout, au coin des bois. C'est sûr qu'on aurait payé. Mais quand on pense le nombre des morts qu'il y a pu y avoir entre le 1er avril et jusqu'au 8 mai, de tous ces gens qui ont été évacués sur les routes.
Au fond, vous auriez plutôt été partisan de tenter une action de masse.
Ah, moi, j'étais absolument pour. C'était la position des Français qui étaient engagés, qui savaient les possibilités que nous avions. On comprend bien que même avec la meilleure volonté du monde, dans cet enfer concentrationnaire, il était bien difficile de contacter tout le monde. Il y avait même des résistants authentiques qui n'auraient pas demandé mieux que de se battre et d'occuper une place dans l'organisation s'il avait pu savoir qu'elle existait. Mais malgré tous nos efforts, nous ne connaissions pas tout le monde. Il s'est trouvé un certain nombre de gens qui ont été écartés en réalité. Sur les quelques 25 000 détenus qui restaient le 11 avril au camp, il y en a peut-être 3 ou 4 000 qui ont pris part à l'action. Et pour les Français, il y en a eu 1 000 qui ont pris part à l'action,
plutôt plus. Cette position française, action immédiate,
oui,
elle a dû être défendue au comité militaire international.
Oui, elle a été défendue au comité militaire. Pendant plusieurs jours, nous avons demandé qu'on n'attende pas et qu'on passe à l'attaque.
Là, tout de même, non seulement la collégialité, mais aussi la discipline militaire ont joué.
Ah oui, et nous avons
Vous êtes incliné.
On s'est incliné. Les Français, les Soviétiques, les Yougoslaves, les Espagnols n'ont été qu'une minorité. Il a fallu s'incliner.
Est-ce que vous avez en mémoire des arguments qu'ont donné vos camarades qui n'étaient pas d'accord avec cette action immédiate?
Évidemment, les camarades allemands, mettant en avant leur expérience et leur connaissance de ce qui se passait tout autour du camp, ils considéraient que c'était la solution la plus sage.
Oui, mais c'est insuffisant. Vous en dites trop ou trop peu.
Et que voulez-vous, ils étaient enfermés dans le camp depuis de nombreuses années. Et aussi, peut-être qu'une des raisons essentielles, c'est qu'ils sous-estimaient la force que nous représentions. Pour eux, ce qu'ils reconnaissaient, c'était nos groupes de choc, qu'on avait mis en somme à la disposition du comité international. Mais derrière ces groupes de choc se trouvaient nos trois bataillons complets. Or, celles, ils ont toujours fait comme si ça n'existait pas.
Oui, mais il y a tout de même l'unité de commandement, alors une autre...
Ah, mais au sein du comité international, il y avait une bonne douzaine de nationalités représentées, et comme c'était la représentation par nationalité, il ne s'en est trouvé que trois ou quatre, contre sept ou huit, pour abonder dans notre sens. Donc nous ne pouvions que nous incliner.
Si vous, l'organisation militaire française, vous aviez été majoritaire, la question n'est pas de savoir qui avait raison, vous aviez été majoritaire, vous auriez déclenché une insurrection armée dans le camp au début avril, avant les départs sur les routes en transport.
Au moins plusieurs jours plus tôt, oui.
C'est-à-dire que dans les casernes SS de la division Das Reich, attenant au camp mais ne fournissant pas l'effectif de répression, il n'y avait plus de SS.
Si, il y avait bien sûr qu'il y avait des SS et nous sommes sûrs que nous aurions payé. Mais je suis absolument convaincu que quel que soit le prix qu'on ait payé cette action, elle aura coûté moins que ce qu'a coûté l'attentisme. Parce que pendant ces quelques jours, entre le 5 et le 11 avril, il est mort des milliers d'êtres humains de Buchenwald, qui ont été évacués du camp et qui n'auraient pas été.
C'est ça, vous n'étiez pas en mesure d'arrêter ou de freiner les convois. Le mot d'ordre que vous faisiez circuler, c'était retarder, présentez-vous plus tard, essayez de ne pas partir dans les convois. Mais pratiquement, comment ça se faisait, les convois ?
Dans les derniers jours, c'était la plus grande pagaille. Ils envoyaient une cinquantaine de SS dans le camp. Ils ont commencé par le petit camp. Ils emmenaient ça à la gare, sur les routes. Et puis c'était fini. Ça durait une heure ou deux dans la pagaille la plus absolue. C'était quelque chose d'infernal. La dernière évacuation, celle du 8 avril, c'est peut-être l'une des journées les plus terribles de l'histoire de Buchenwald. Nous avons vu partir non seulement les meilleurs groupes des prisonniers de guerre soviétiques, mais également du point de vue des Français, tous nos meilleurs camarades du bloc 26, du bloc 10, qui ont été emmenés, ce qui a affaibli l'organisation de la résistance dans le camp. C'est difficile à raconter. On est tous montés sur la place d'appel, où il y avait 400 hommes de troupes là, rangés devant nous. Tous les blocs rassemblés là. Oh, il y avait peut-être, je sais pas, moi, à l'époque, il y avait encore peut-être 40 à 50 000 détenus dans le camp, qui avait déjà été bien vidé depuis plusieurs jours. Et ils ont commencé à évacuer les blocs qui se trouvaient les plus près de la porte. On a bien essayé d'empêcher, de retarder, mais là, on n'a pas pu empêcher que les blocs qui se trouvent le plus près de la porte du camp soient amenés. Il y avait trop de force autour d'eux. Mais tous les autres, on a fait un mouvement de repli, qui était une opération remarquablement bien menée, et qui empêchait qu'il y en ait encore davantage pour partir.
20 ans après, Roger Arnoux est toujours aussi formel. Il regrette que l'insurrection n'ait pas éclaté quelques jours plus tôt. Sur ce point, le témoignage du général Ayret est très important. Mon général, il est clair que l'organisation militaire avait prévu les différentes possibilités que les SS utiliseraient à la veille de l'évacuation du camp. Quel cas de figure aviez-vous envisagé ?
Eh bien, il y avait évidemment plusieurs possibilités. Il y avait une possibilité d'une libération extrêmement rapide par des forces alliées arrivant très vite, auquel cas la libération n'aurait pas posé de problème. Il y avait une autre solution. C'est le cas où les opérations alliées auraient été longues et où les SS auraient eu pour politique soit d'anéantir les détenus en les traitant au lance-flammes ou à la mitrailleuse ou autrement, soit de les envoyer sur les routes pour les liquider également, soit pendant le voyage, soit à l'arrivée. Et par conséquent, dans la première hypothèse, la participation du camp à sa propre libération était relativement peu importante. Dans le deuxième cas, au contraire, il aurait beaucoup mieux valu essayer de rompre l'encerclement plutôt que d'accepter de faire liquider l'ensemble des camps, et il aurait de toute façon mieux valu mourir en combattant et en descendant quelques SS plutôt qu'en se laissant purement et simplement cramer.
C'est presque le deuxième cas qui s'est produit.
Précisément, autant que mes souvenirs soient exacts, les forces américaines de la 3e armée se sont arrêtées pendant un temps assez long, il me semble que c'est 3 ou 4 jours, dans la région d'Eisenach. Et évidemment, pendant ces 3 ou 4 jours, les Hitlériens n'ont pas appliqué la politique de liquidation de l'intérieur du camp comme ils l'ont fait à d'autres endroits, mais ils ont commencé à procéder à l'évacuation des camps. L'organisation des camps, l'organisation clandestine, a déployé de gros efforts pour empêcher de partir les détenus qui étaient à l'intérieur du camp, et sans y réussir complètement, il est certain que l'inertie, les difficultés, les bâtons dans les roues mis au rassemblement des gens, etc., ont fait que, vraisemblablement, un nombre assez important qui serait parti ne sont pas partis.
Est-ce que précisément durant les 2 ou 3 jours qui virent ces départs, il n'y avait pas possibilité de démarrer l'insurrection?
Ça aurait pu être fait. C'est certain que ça aurait pu être fait. Ça aurait peut-être été assez drôle d'ailleurs.
Car en fait,
maintenant, le résultat, on ne peut pas le savoir, n'est-ce pas, à l'avance. Il était difficile de savoir les forces ennemies qui auraient pu agir, quelle était la force exacte au point de vue armement de ce qu'il y avait à Buchenwald. Par conséquent, même en dépit du rapport des forces qui était certainement favorable aux SS, ça aurait pu être tenté, et ça aurait pu être dans certains cas assez drôle. Ça aurait évidemment aussi peut-être pu aboutir à des pertes considérables dans les détenus, mais enfin, ça n'était pas exclu comme possibilité.
C'était La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Assistant, Gilbert Maurice Duprez.
C'était L'heure de la libération, le 15e de 27 épisodes de la série Le monde concentrationnaire, diffusé pour la première fois le 13 mai 1965 sur France Culture. À suivre.